Lupin fit jouer de nouveau le ressort de sa lanterne électrique, courut dans le cabinet de toilette, constata que l'homme avait disparu et, revenant tranquillement vers la table, alluma la lampe. Jeanne était couchée sur son lit, blême, évanouie. Le docteur, accroupi dans un fauteuil, émettait des sons inarticulés. « Voyons, reprenez-vous, il n'y a pas à se frapper puisque c'est fini. »
« Son père! Son père !»«
Je vous en prie, docteur, mademoiselle Darcieux est malade, soignez-la !» Sans plus s'expliquer, Lupin regagna le cabinet de toilette et passa sur la corniche. Une échelle s'y trouvait appuyée. Il descendit rapidement. En longeant le mur, 20 pas plus loin, il se heurta au barreau d'une échelle de corde à laquelle il grimpa et qui le conduisit dans la chambre de monsieur Darcieux. Cette chambre était vide. « Parfait. Le client a jugé la situation mauvaise et il a décampé. Bon voyage. Et sans doute la porte était-elle barricadée ?»« Justement. C'est ainsi que notre malade, roulant ce brave docteur, se relevait la nuit en toute sécurité, fixait au balcon son échelle de corde et préparait ses petits coups. Pas si bête, le Darcieux. » Il ôta les verrous et revint à la chambre de Jeanne. Le docteur qui en sortait l'entraîna vers la petite salle.
« Elle dort, ne la dérangeons pas. La secousse a été rude. Il lui faudra du temps pour se remettre. »
Lupin prit une carafe et but un verre d'eau. Puis il s'assit et paisiblement « Bon, demain il n'y paraîtra plus. »«
Que dites-vous ?»«
Je dis que demain il n'y paraîtra plus. »
« Et pourquoi ?»«
D'abord parce qu'il ne m'a pas semblé que mademoiselle Darcieux éprouvât pour son père une affection très grande. »«
Qu'importe, pensez à cela. Un père qui veut tuer sa fille. Un père qui, pendant des mois, recommence 4, 5, 6 fois sa tentative monstrueuse. Voyons, n'est-il pas là de quoi flétrir à jamais une âme moins sensible que celle de Jeanne ? Quel souvenir odieux ! » !»«
Elle oubliera. »
« On n'oublie pas cela. »«
Elle l'oubliera, docteur, et pour une raison très simple. »«
Mais parlez donc !»«
Elle n'est pas la fille de monsieur Darcieux. »«
Hein ?»«
Je vous répète qu'elle n'est pas la fille de ce misérable. »«
Que dites-vous, monsieur Darcieux ?»«
Monsieur Darcieux n'est que son beau-père. » Elle venait de naître quand son père, son vrai père, est mort. La mère de Jeanne épousa alors un cousin de son mari, qui portait le même nom que lui, et elle mourut l'année même de ses secondes noces. Elle laissait Jeanne aux soins de monsieur Darcieux. Celui-ci l'emmena d'abord à l'étranger, puis acheta ce château, et comme personne ne le connaissait dans le pays, il présenta l'enfant comme sa fille. Elle-même ignore la vérité sur sa naissance. Le docteur demeurait confondu. Il murmura
« Vous êtes certain de ces détails ?»«
J'ai passé ma journée dans les mairies de Paris. J'ai compulsé les états civils. J'ai interrogé 2 notaires. J'ai vu tous les actes. Le doute n'est pas possible. »«
Mais cela n'explique pas le crime, ou plutôt la série des crimes. » »«
Si, et dès le début. » Dès la première heure où j'ai été mêlé à cette affaire, une phrase de mademoiselle Darcieux me fit pressentir la direction qu'il fallait donner à mes recherches. « J'avais presque 5 ans lorsque ma mère est morte, » me dit-elle. « Il y a de cela 16 ans. » Donc mademoiselle Darcieux allait prendre 21 ans, c'est-à-dire qu'elle était sur le point de devenir majeure. Tout de suite, j'ai vu là un détail important. La majorité, c'est l'âge où l'on vous rendait compte. Quelle était la situation de fortune de mademoiselle Darcieux, héritière naturelle de sa mère? Bien entendu, je ne songeais pas une seconde au père. D'abord, on ne peut imaginer pareille chose. Et puis, la comédie que jouait Darcieux, impotent, couché, malade.
Réellement malade ?
Tout cela écartait de lui les soupçons, d'autant plus que, lui-même, je le croyais en butte aux attaques criminelles. Mais n'y avait-il point dans leur famille, quelques personnes intéressées à leur disparition. Mon voyage à Paris m'a révélé la vérité. Mademoiselle Darcieux tient de sa mère une grosse fortune dont son beau-père a l'usufruit. Le mois prochain, il devait y avoir à Paris, sur convocation du notaire, une réunion du conseil de famille. La vérité éclatait. C'était la ruine pour Darcieux.
Il n'a donc pas mis d'argent de côté ?
Si, mais il a subi de grosses pertes par suite de spéculations malheureuses.
Mais enfin, quoi ? Jeanne ne lui eut pas retiré la gestion de sa fortune.
Il est un détail que vous ignorez, docteur, et que j'ai connu par la lecture de la lettre déchirée. C'est que Mademoiselle Darcieux aime le frère de son ami de Versailles, Marceline, et que Monsieur Darcieux, s'opposant au mariage, vous en comprenez maintenant la raison, elle attendait sa majorité pour se marier.
Oh, en effet, c'était la ruine.
La ruine, je vous le répète. Une seule chance de salut lui restait. La mort de sa belle-fille, dont il est l'héritier le plus direct.
Certes, mais à condition qu'on ne le soupçonnât point.
Évidemment. Et c'est pourquoi il a machiné la série des accidents, afin que la mort parût fortuite. Et c'est pourquoi, de mon côté, voulant précipiter les choses, je vous ai prié de lui apprendre le départ imminent de Mademoiselle Darcieux. Dès lors, il ne suffisait plus que le soi-disant malade erra dans le parc ou dans les couloirs à la faveur de la nuit et mit à exécution un coup longuement combiné. Non, il fallait agir, et agir tout de suite, sans préparation, brutalement, à main armée. Je ne doutais pas qu'il ne s'y déterminât. Il est venu.
Il ne se méfiait donc pas ?
De moi, si. Il a pressenti mon retour cette nuit, et il veillait à l'endroit même où j'avais franchi le mur.
Eh bien ?
Eh bien, j'ai reçu une balle en pleine poitrine. Ou plutôt, mon portefeuille a reçu une balle. Tenez, on peut voir le trou. Alors j'ai dégringolé de l'arbre comme un homme mort. Se croyant délivré de son seul adversaire, il est parti vers le château. Je l'ai vu rôder pendant 2 heures. Puis, se décidant, il a pris dans la remise une échelle qu'il a appliquée contre la fenêtre. Je n'avais plus qu'à le suivre. Le docteur réfléchit et dit
« Vous auriez pu lui mettre la main au collet auparavant. Pourquoi l'avoir laissé monter ? L'épreuve était dure pour Jeanne et inutile. »
Indispensable ! Jamais Mademoiselle Darcieux n'aurait pu admettre la vérité. Il fallait qu'elle vît la face même de l'assassin. Dès son réveil, vous lui direz la situation. Elle guérira vite.
« Mais, monsieur Darcieux !»«
Vous expliquerez sa disparition comme bon vous semblera. Un voyage subi, un coup de folie, on fera quelques recherches. Mais soyez sûr qu'on n'entendra plus parler de lui. »
« Oui, en effet, vous avez raison. Vous avez mené tout cela avec une habileté extraordinaire et Jeanne vous doit la vie. Elle vous remerciera elle-même. Mais de mon côté, ne puis-je vous être utile en quelque chose ? Vous m'avez dit que vous étiez en relation avec le service de la sûreté. Me permettez-vous d'écrire, de louer votre conduite, votre courage ?
Ah oui ! Certainement. Une lettre de ce genre me sera profitable. Écrivez donc à mon chef direct, l'inspecteur principal Ganimard. Il sera enchanté de savoir que son protégé, Paul Daubreuil, de la rue de Suresnes, s'est encore signalé par une action d'éclat. Je viens précisément de mener une belle campagne sous ses ordres, dans une affaire dont vous avez dû entendre parler, l'affaire de l'écharpe rouge. Ce brave monsieur Ganimard, ce qu'il va se réjouir.